Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce lundi. Nous sommes le 17 mars. Manifestation devant la métropole de Lyon aujourd'hui. Ce sont les agents métropolitains qui appellent à la grève. Un départ à la retraite sur deux ne sera pas remplacé. C'est le budget primitif de la métropole qui doit être examiné aujourd'hui. L'exécutif écologiste affiche ses priorités, mais devra renoncer à certains projets. Explication dans ce quart d'heure lyonnais. Une plateforme de mécénat pour mettre en relation les entreprises et les associations. Son nom, le Poids du Vivant, un fonds de dotation dont le but est de venir en aide à des associations qui se battent pour la sauvegarde de la biodiversité. Explication avec l'initiateur de la plateforme, Franck Couturieux. La programmation 2025-2026 de l'Opéra a été rendue publique. Les résultats sportifs du week-end à la fin de ce quart d'heure lyonnais.
Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mais d'abord, Zeus, le cheval métallique qui avait fait sensation lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 sur la Seine, s'installe à Lyon. Il sera exposé et visible gratuitement dans la cour de l'Hôtel de Ville de Lyon dès ce soir et jusqu'au 2 avril. Cet événement est organisé par Sanofi et la Ville de Lyon. Le montage est prévu ce matin dans la cour de l'Hôtel de Ville. Le public est attendu ce soir de 18h à 21h pour l'inauguration. La cour sera ouverte au public en journée, en soirée ou le week-end, selon un calendrier préétabli durant ces deux prochaines semaines. L'intersyndicale de la métropole de Lyon appelle les agents métropolitains à la grève aujourd'hui. Un rassemblement est prévu devant l'hôtel de la métropole, rue du Lac, où les élus ont rendez-vous pour débattre du budget. La collectivité doit intégrer cette année 60 millions d'euros d'économies avec la baisse de dotation de l'État et la baisse des recettes. Un départ à la retraite sur deux ne sera pas remplacé. Les postes qui n'ont plus vocation à perdurer seront transformés en d'autres postes pour assurer la continuité du plan de mandat, assure Zemorda Khelifi, la vice-présidente en charge des ressources humaines. La transformation de 126 postes doit ainsi être votée ce lundi lors du Conseil. La métropole comptait 9671 agents au 1er janvier. Concernant le budget, l'exécutif écologiste affiche ses priorités dans un contexte de baisse des dotations de l'État. L'enveloppe dédiée au handicap est portée à 277 millions d'euros. 170 sont consacrés à l'autonomie, 207 millions pour la protection de l'enfance. Autre priorité, le logement et l'adaptation du territoire au changement climatique. Des projets dans certaines communes pourront être annulés ou retardés. 37 millions d'euros, c'est le budget dédié à la culture en 2025, soit une baisse de près de 2 millions. Les acteurs majeurs, le Festival Lumière, les Nuits de Fourvière, l'Oukdonom, le Musée des Confluences ou encore les Biennales de Lyon ont dû faire des efforts car la métropole veut continuer à soutenir les plus petites structures. Les subventions sont aussi revues à la baisse pour le Théâtre des Célestins, le Planétarium de Vaux-en-Velin ou encore la Cité de la Gastronomie. L'enveloppe de 80 000 euros à la Fête des Lumières est aussi supprimée. L'association Lyon Métro et Transports Publics organise une réunion sur le thème du service express régional métropolitain, plus communément appelé le RER lyonnais. Un vieux serpent de mer qui a bien du mal à se concrétiser. Des universitaires spécialisés en histoire et sociologie des transports analyseront l'évolution des réseaux et leur impact sur la société. Des ingénieurs et économistes des transports décortiqueront les aspects techniques et financiers du projet. Un chargé de projet des syndicats de mobilité présentera les différentes étapes de mise en œuvre et les perspectives. Du côté des politiques, sont attendus Christophe Jourjon, conseiller régional. Il exposera la vision de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour ce projet structurant. Jean-Charles Colas, vice-président de la métropole, détaillera lui les actions et les ambitions de la collectivité écologiste en matière de mobilité. Réunion organisée par Lyon Métro ce soir à 18h30 à la Maison des Italiens à Dauphiné-la-Cassagne.
Lyon Demain, idée en partage.
Une plateforme du mécénat pour mettre en relation des entreprises et des associations. Son nom, le Poids du Vivant. À l'origine de cette initiative, Franck Couturieux, ancien chef d'entreprise. Il est à l'origine du fonds de dotation dont le but est de venir en aide aux associations qui se battent pour la sauvegarde de la biodiversité. Nous avons rencontré Franck Couturieux.
Le Poids du Vivant, donc, c'est une structure qui sélectionne des associations et des projets environnementaux utile pour la planète et qui se situe en intermédiaire entre les entreprises qui souhaitent agir et justement ces assos, ces projets qu'on a du mal à trouver quand on est à la tête d'une entreprise.
Alors vous étiez chef d'entreprise, qu'est-ce qui vous a incité, je dirais, à créer cette plateforme ?
Eh bien, j'avais la volonté de moi-même d'agir pour la planète et j'ai eu du mal à trouver des projets à l'époque. Une fois que j'ai pu avancer dans cette voie-là, trouver enfin des projets pertinents, d'autres entreprises m'ont dit « mais on aimerait bien agir comme vous, on aimerait bien faire ce que vous faites ». Et je savais que ce n'était pas simple du tout. J'y avais passé beaucoup de temps et je me suis dit « bah si j'y passe encore plus de temps et que je crée une bonne plateforme qui serait pertinente pour les entreprises, ça aiderait tout le monde, ça aiderait tout le monde à agir et ça serait bénéfique pour tous les projets et pour tous les assos qui œuvrent tous les jours sur le terrain ». Voilà comment est née la plateforme « Le poids du vivant ».
Vous m'expliquiez tout à l'heure qu'en fait il y avait deux mondes, il y a le monde de l'entreprise et le monde du vivant, de la nature, de la biodiversité. Ces deux mondes ne se parlent pas aujourd'hui ?
C'est ce que j'appelle ça, deux mondes parallèles. Moi. Quand on est chef d'entreprise, on est dans sa boîte, on s'occupe de faire tourner sa boîte, on ne s'occupe pas de ce qui se passe ailleurs. Et les entreprises et les assos, elles sont dans leurs projets, etc. Elles ont du mal, elles n'osent pas trop déranger les entreprises, donc elles vivent dans leur monde parallèle au monde de l'entreprise. Et c'est pour ça qu'on ne risque pas de les croiser. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à en trouver, au point même que je pensais que ça n'existait pas. Qu'il y avait trois grosses associations en France et qu'il n'y avait rien d'autre. Alors que quand on bascule vers ce monde-là, ce monde des assos, on découvre qu'il y en a des centaines et des projets absolument géniaux qu'on ignore complètement à la base. Donc il y a vraiment beaucoup de belles choses à faire.
Qu'est-ce qui vous a incité à vous intéresser justement à la biodiversité en tant que chef d'entreprise ?
Moi c'est juste le gamin que j'étais. Enfin, moi je suis un passionné de nature depuis toujours. Pour me ressourcer, pour me vider la tête, c'est dans la nature que ça se passe. Et je voyais bien que beaucoup de choses avaient été détruites depuis que j'étais petit. Donc il y avait un problème. Il y avait un problème, c'est tout. En tant que chef d'entreprise, je ne voyais pas plus que ça. Je voyais juste quelque chose qui déconnait autour de moi.
Et pour vous, c'était naturel que justement le chef d'entreprise que vous êtes se mettre à agir ?
C'est devenu une évidence, oui. La terre m'a donné beaucoup depuis toujours. J'ai exploité la terre pour construire mes bâtiments, j'ai exploité beaucoup de matériaux et autres pour faire mes logiciels. Donc on m'a donné beaucoup depuis ma naissance. Et à un moment, il faut restituer, quoi. Ça me semblait évident que ma société, si elle faisait des profits, puisse agir pour la planète. C'était une évidence. Et ça me semblait aujourd'hui, il y avait une évidence que toutes les entreprises devraient agir d'une certaine façon pour la planète.
Comment vous avez agi, vous, au départ ?
Et au tout début, je cherchais une asso à accompagner justement sur un projet. J'ai eu, comme je disais, beaucoup de mal à trouver. Et celle que j'ai trouvée, c'était par le navigateur Yvan Bourgnon, qui avait créé une association qui s'appelait The Sea Cleaners, dont le projet était de construire un bateau pour nettoyer les océans de toutes les pollutions plastiques. Et j'ai trouvé le projet génial, on s'est embarqué là-dedans. Et c'est justement via Sea Cleaners et toute la communication qu'elle faisait que j'ai découvert tous les problèmes de la planète et donc tout ce monde associatif que je ne connaissais pas, qui était en parallèle à ma vie de chef d'entreprise.
Et vous, votre rôle aujourd'hui, c'est justement de mettre en relation, enfin de permettre en tout cas la mise en relation entre les entreprises et les associations. Alors comment ça se passe ?
Eh bien, la plateforme référence des associations sur tout le territoire français, des associations, des projets, sur différentes thématiques. Ça peut être les mers et océans, les forêts, l'agriculture, l'eau douce, voilà. On a différentes thématiques. On essaie de couvrir à peu près tous les cas possibles du vivant, de la biodiversité. Donc ces associations sont référencées sur notre plateforme, puisque Le Poids du Vivant est une plateforme. On accompagne ces associations, on peut les accompagner financièrement aussi. Et on propose donc justement aux entreprises, via notre plateforme, de sélectionner le thème qui les intéresse, de sélectionner pourquoi pas le type d'action qui les intéresse. Ça peut être l'éducation, ça peut être du plaidoyer, ça peut être de l'action de terrain. Et une fois qu'elles sont sur la plateforme, on leur propose de faire un don, de ce qu'on appelle du mécénat. Donc, pour les associations en question, le système est ultra simple. Hein, il n'y a pas à se casser la tête de comment ça marche, qu'est-ce que c'est qu'une asso, qu'est-ce qu'il faut faire comme paperasse ou quoi que ce soit. On s'occupe de absolument tout. L'entreprise fait son don et le lendemain reçoit son reçu fiscal, puisque la plupart des dons sont éligibles du mécénat sont éligibles au reçu fiscal, c'est-à-dire 60% du don est déductible des impôts. Donc c'est très 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 simple. Et puis régulièrement ensuite, parce que agir pour la planète, c'est valorisant pour l'entreprise qui le fait. Donc on lui envoie des éléments de communication pour qu'elle puisse en parler, soit sur les réseaux sociaux, dans sa newsletter, sa communication ou autre, qu'elle puisse en parler à ses salariés, ses clients, à ses partenaires, à d'autres entreprises, parce que ça peut donner envie à d'autres boîtes d'agir aussi. Et voilà donc comment on fonctionne.
On a une carte, c'est ça, qui permet en fait de localiser les associations. Donc à Lyon, par exemple, il y en a une petite dizaine ?
Il donnera une petite dizaine sur Lyon. Mais effectivement, on peut sélectionner soit par une carte, soit directement par la thématique qui intéresse. Donc il y a deux modes d'approche pour sélectionner une association.
Et ça veut dire qu'on peut sélectionner aussi bien des entreprises, enfin des associations de sa région ou par exemple de sa région natale, par exemple, si on veut aider.
Ça peut être ça, ou ça peut être tout simplement par rapport à un loisir qui nous tient à cœur. Donc c'est quelqu'un qui aime faire de la voile, ce que j'aime bien répéter. Quelqu'un qui aime bien faire de la voile, il ne va pas trouver grand-chose en termes de mer et océan sur Lyon. Donc il va sélectionner cette thématique mer et océan. et puis trouver des projets super intéressants, peut-être en Méditerranée, peut-être en Polynésie, je ne sais pas, qui vont être un vrai coup de cœur et qui vont lui donner envie d'agir dans cette voie-là.
Le choix au départ, c'est en fonction de l'activité et en fonction de projets également.
Ça peut être l'activité de l'asso en général, puisque certaines se concentrent par exemple essentiellement sur les mers et océans et défendent les mers et océans, donc c'est sur toute la planète. Ou ça peut être un projet local de protéger ou de restaurer une forêt en Auvergne, par exemple, pourquoi pas.
Comment sont sélectionnées les associations? Est-ce que c'est rigoureux? Est-ce qu'il y a un comité de sélection pour dire c'est cette association qu'il faut aider?
Ouais, ça, c'est pas très simple. Ça, c'était le morceau que je savais pas faire moi-même, parce que n'étant pas issu du monde associatif, c'était pas la chose facile. Dès le début de la création de la structure, j'ai embauché quelqu'un qui venait du monde associatif, qui avait 22 ans de monde associatif derrière lui, donc il savait exactement qu'est-ce qui fait qu'une asso est pertinente ou pas, qu'est-ce qui fait qu'en lisant les comptes, le fonctionnement est réglo ou pas, hein, parce que si 100% des dons servent à financer des salaires, bah, l'asso, elle sert strictement à rien, voilà. Est-ce que les assos collaborent entre elles ou pas? C'est important aussi. Est-ce que le projet va servir à quelque chose? Est-ce que c'est pérenne ou pas? Et ça, c'est pas simple du tout. Donc ça, c'était bien que je trouve quelqu'un qui vienne de ce monde-là pour faire cette sélection. Quand la difficulté est un peu plus importante, on a un comité scientifique qui nous aide justement à valider la qualité des projets. Donc ce comité, on le réunit si on en a besoin, et sur la thématique voulue. Et donc on a notre comité scientifique dédié, et puis on a accès à beaucoup de scientifiques maintenant en France grâce à toutes les assos qu'on accompagne, parce que la plupart des assos sont accompagnés par des scientifiques. Et donc ce que j'aime bien dire, c'est qu'on est à deux coups de fil de n'importe quel scientifique en France. Premier coup de fil à l'asso pour lui demander qui appeler, et puis deuxième coup de fil aux scientifiques pour savoir justement si le projet que l'on souhaite accompagner est pertinent ou pas.
Aujourd'hui, c'est le rôle du chef d'entreprise de participer à cette lutte, à cette défense du monde végétal.
Bah, ça me semble être une évidence, puisque c'est quand on s'intéresse aux problèmes de la planète, on voit que c'est essentiellement l'activité économique qui génère des problèmes, et l'activité économique est créée par les entreprises, essentiellement. Donc il y a besoin d'une vraie prise de conscience des chefs d'entreprise que leur entreprise est à l'origine des problèmes. Ça, c'est pas facile à admettre, hein, quand on est à la tête de sa boîte, mais c'est une réalité. Bah, une fois qu'on a compris, agir est une évidence pour moi.
Ouais. Ok, le poids du vivant, donc la plateforme qu'il faut aller consulter avant de faire un don à une association, vos perspectives, vos projets.
Aujourd'hui, on a 65 assos à accompagner. Le but, c'est d'atteindre les 100 en cours d'année 2025. Et puis, d'aller sensibiliser un maximum d'entreprises pour agir et pour aider toutes ces super assos qui font un super boulot sur le terrain. Voilà.
Merci Franck Couturieux.
Voilà, merci. Et encore une fois, lepoidsduvivant.org.
Franck Couturieux, initiateur de la plateforme de mécénat Le Poids du Vivant. Notez que cette plateforme ne prélève aucune commission. 100% des dons sont donc reversés aux associations de défense de l'environnement. Réseau national de surveillance aérobiologique, RNSA, dont la mission est la surveillance de la présence et des taux de concentration des pollens sur le territoire national, eh bien cette structure va disparaître, une structure associative qui avait un rôle également d'information auprès de la population, alors qu'un Français sur quatre est concerné par les allergies aux pollens, en cause la baisse des subventions de l'État. L'association était en cessation de paiement déjà à la fin de l'année 2024. Grâce à 40 000 euros de dons, elle a pu poursuivre son activité, mais le retour devant le tribunal fin mars devrait définitivement sceller le sort du RNSA. Le documentaire Pollen, bientôt tous allergiques, présenté par Hugo Clément, sera diffusé ce soir à 21h sur France 5. Il a été tourné pour partie au sein de l'association RNSA. La programmation 2025-2026 de l'Opéra a été présentée samedi. Premier rendez-vous à Boris Godounov de Moussorgski en octobre, dans sa version originale de 1869. En décembre et janvier, les Contes d'Hoffmann seront à l'affiche. Œuvre plus rare, Louise de Gustave Charpentier prendra la suite fin janvier. Elle n'a plus été donnée à Lyon depuis 1901. La saison s'achèvera avec Les Enfants du Levant d'Isabelle Aboulker, créée en 2001. La saison s'ouvre autant aux œuvres du patrimoine qu'à la création contemporaine, dans une volonté d'ouvrir l'opéra au plus grand nombre. Troisième succès d'affilée en Ligue 1 pour l'Olympique Lyonnais. Les Lyonnais se sont imposés face au Havre sur la marque de 4-2, ce qui leur permet de revenir à 2 points de Nice, 4e, et Monaco, 3e. Vendredi soir, Ada Hegerberg est entrée dans l'histoire de l'Olympique Lyonnais féminin en inscrivant le 3000e but du club depuis sa création en 2004. Les filles ont battu Reims sur le score fleuve de 8-1. Le plus grand événement sportif du Beaujolais revient les 22 et 23 novembre 2025 pour une nouvelle édition. C'est le traditionnel marathon du Beaujolais, près de 30 000 participants attendus contre 27 500 en 2024 lors de la 20e édition. Vous pouvez vous inscrire sur le site internet du marathon du Beaujolais dès aujourd'hui. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour la prochaine édition. Excellente journée.